Merci, et tout de suite, on déhausse les raquettes.
One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, James Elroyer.
Et avec vous, Ping Pong navigue par-delà le bien et le mal.
Ping Pong, la culture sans limite. Oh, yeah.
La culture, ça sert à faire des fissures. Les fractures vivantes de l'Amérique nous apparaissent grâce au roman de James Ellroy, Les Arts de la Surface, et vous pourrez entrevoir un peu de vrai, un peu de chair. Le poète Leonard Cohen ne nous dit pas autre chose dans sa chanson Anthem. Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Reste à la trouver, et chacun sa méthode. James Ellroy, notre invité ce soir, cherche dans les tréfonds de ses personnages, allongés dans le noir, sans ordinateur, sans téléphone, coupé de ce qui pourrait perturber les voyages temporels de son imagination. D'autres y vont carrément au marteau-piqueur, voire à l'explosif, comme la jeune DJ AZF. Radicale et provocante, elle emprunte son nom à l'explosion mortelle d'une usine en 2001. DJ AZF et sa musique de déflagration nous fait entendre un son comme sorti des entrailles du cyberespace, les viscères du nouveau millénaire. Dans la droite ligne des musiques électroniques dites underground, celles des raves des années 90, qui continuent aujourd'hui sous les périphes et dans les circuits parallèles, elle cherche la fissure, le passage. Mais comment ? Ce sera l'objet d'une conférence demain à Paris, à la Gaîté Lyrique, dans le cadre de la Paris Electronic Week, avec entre autres DJ AZF, le vétéran Manuel Malin, ou encore le jeune cofondateur du label Cracky Records, François Kraft. Sans oublier, dans la foulée, la conférence de clôture de Paul Hartnoll, écrivain et pionnier des musiques électroniques avec le groupe Orbital. De quoi s'ouvrir en cette veille de technoparade à ce que cette culture a encore à nous dire.
Et tout de suite, direction l'Underworld USA avec James Ellroy.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
James Ellroy, le critique de rock Graham Marcus, aime bien citer cette définition du rock par le leader des Who, qui disait que une bonne chanson rock, c'est prendre une cartouche, mettre toute l'histoire de la pop dedans et tirer un bon coup de feu. Et j'ai l'impression que chacun de vos romans est aussi comme une sorte d'explosion, comme une déflagration. J'aimerais savoir ce que vous, vous mettez dans chacune de vos cartouches.
It's American history rewritten.
L'histoire des États-Unis réécrite selon mon cahier des charges. Mes livres n'ont rien à voir avec la période actuelle. Mes livres ont été conçus dans une bulle parce que je vis dans la bulle de mon imagination. Si vous voulez faire un parallèle par rapport à l'actualité d'aujourd'hui ou du Los Angeles actuel, c'est libre à vous, mais c'est pas ce que je fais. Mes livres sont, à mon avis, des passeports qui permettent aux lecteurs de lire en anglais, en français, en italien, en hébreu. Donc les lecteurs peuvent entrer dans un monde. Vous montrez le passeport ? Le passeport, c'est le livre d'Ellroy. Vous entrez dans l'univers d'Ellroy et vous devez lire le livre avec autant d'obsession que celle qui a présidé à l'écriture que j'en ai faite.
Los Angeles, samedi 6 décembre 1941. La brigade de répression des vols manque de personnel. Un cinglé portant un masque de Hitler a braqué trois bars dans le quartier de Silver Lake. Vol à main armée et dégradations diverses. Le cinglé a assommé les serveurs avec son pistolet et tripoté les clientes. Il adore appuyer sur la détente. Il a criblé de balles les jukebox et les étagères remplies de bouteilles d'alcool. La brigade de répression des vols est débordée. C'est Ashida qui a construit le bidule photographique à déclenchement automatique. Il a aussi choisi l'endroit où il pourrait le tester. Il a créé le prototype quand il était encore au lycée. À l'époque, il a fait ses premiers tests dans les douches du lycée Belmont. Il s'est servi de son invention pour photographier Bucky après l'entraînement de basketball. Une voiture fait une embardée en s'engageant dans Spring Street en direction du nord. Le conducteur remarque Ashida. Évidemment, il hurle « Saloperie de Jap !» C'est Ray Pinker qui réagit. Évidemment, il hurle « Va te faire foutre !» James Ellroy, Perfidia.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, James Ellroy, ce flash que vous avez eu au Mandalia Noir pour écrire LA Confidential et que vous avez eu à nouveau pour ce nouveau quatuor de Los Angeles, Perfidia?
Ok. Back in 86, when I was writing the Mandalia Noir.
En 86, lorsque je travaillais sur le Dahlia Noir, il m'est venu deux flashs, l'un après l'autre. Le premier flash, c'était le plan général de LA Confidential. Je savais que ce ne serait pas le livre suivant. Le Grand Nulle Part, ce serait le livre suivant. Mais malgré tout, j'avais le plan. Pas tous les détails, mais j'avais les trois personnages principaux, les deux personnages de femmes et certaines des situations. À la suite de ce flash, il m'est venu une révélation. En fait, c'était un autre flash. Et ce que je peux concevoir, je peux réaliser, je peux exécuter. Ce que j'arrive à former dans mon esprit, j'arrive à le porter à la réalité sur la page. Et c'était un moment saisissant. Et j'ai fait le plan avec encore plus de méticulosité depuis.
And so, these books are as big.
Ces livres que j'écris sont volumineux et détaillés parce qu'ils sont conçus avec une attention très poussée et l'exécution se fait de façon très minutieuse. Et toutes mes compétences de prévision et de planification, je les mets à l'œuvre pour chaque livre. Je viens de terminer le plan du prochain livre. Le plan fait 500 pages. Je l'ai donné à mon éditeur américain. Je vais vraisemblablement aller à New York le mois prochain pour qu'on en parle. Le second flash, je l'ai eu en 2008, c'était l'hiver, je regardais par la fenêtre de mon bureau qui donne vers le sud et je me demandais pourquoi je n'avais pas de petite amie. Puis il m'est venu ceci. Vous avez lu Perfidia? Bon. J'ai vu des Japonais américains un petit peu perdus. Ils étaient à l'arrière d'un bus de l'armée américaine et on les amenait à travers les montagnes enneigées en plein milieu de l'hiver pour les emmener dans un camp d'internement dans la vallée Owens. C'est là qu'ils devaient passer l'hiver. Eh bien, ça m'est venu immédiatement. Eh bien, c'est la deuxième tétralogie de Los Angeles. Des personnages de la première tétralogie et de la trilogie s'y trouvent. Ils sont à Los Angeles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des personnages plus jeunes, bien sûr. Le premier roman serait intitulé « Perfidia », comme la grande chanson d'amour de la fin des années 30. Et il s'agirait du meurtre d'une famille japonaise le jour qui a suivi l'attaque de Pearl Harbor. Bingo, voilà, c'est parti.
L'entrée en guerre des États-Unis. 8 décembre 41, New York Times, la guerre avec le Japon. 8 décembre 41, le Times, Los Angeles, Japon, chien enragé. 8 décembre 41, The Enquirer, Philadelphie, nous ne faillirons pas. 8 décembre 41, The Herald, Boston, la guerre à notre porte.
Nous interrompons ce programme pour vous dire que les Japonais ont attaqué le Pearl Harbor en Hawaï par une attaque aérienne. Le président Roosevelt vient de le dire. L'attaque était également faite sur les bases navales de l'île de Oahu.
can do it again, and we will do it again. We've got a heck of a job to do, but you can bet that we'll see it through. We did it before, and we can do it again, and we will do it again. We'll knock them over, and then we'll get the guy in back of them. We did it before, we'll do it again.
Parlons d'obsession, James Ellroy. Il y a un écrivain français, Pierre Bergougnoux, qui aime dire que les premières expériences dans la vie d'un homme font toujours la substance de ses récits. Et j'aimerais savoir ce qu'il y a de vos premières expériences dans Perfidia et dans le nouveau Quatuor de Los Angeles.
I'm not so sure that this person is correct.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette citation.
I'll state that.
Mais... Cela dit, à la suite de l'assassinat de ma mère en 1958, je suis devenu obsédé par l'histoire de Los Angeles, ma ville, l'histoire criminelle, j'entends, les émeutes raciales, la vie des flics, les assassinats, le système judiciaire. Et par la suite, je suis devenu obsédé par l'histoire américaine à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Les communistes, les nazis qui ont fui l'Europe pour aller en Amérique du Sud. Tout ça. Et tout ça, ça se balade dans mon esprit. Et tout cela passe par le prisme de mon interprétation et mon étude des romans noirs. Je ne fais pas de dissection, je fais de la révision. Je n'essaye pas d'apprendre quoi que ce soit. J'essaye de satisfaire ma curiosité quant à une époque et un lieu donné. Et la seule façon pour moi d'y parvenir, c'est d'inventer des histoires qui se passent à cette époque et à Los Angeles. Los Angeles, 1941, la fin 41 jusqu'à l'été 45. Los Angeles, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les personnages de la première tétralogie et les personnages de la trilogie. Ils sont tous à Los Angeles pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils sont beaucoup plus jeunes. C'est ça, mon vecteur pour réécrire l'histoire.
Vous réécrivez l'histoire, James Ellroy. Vous dites que vous aimez vivre dans cette bulle de votre imagination, vivre à travers elle dans le passé, vous insinuer dans le passé. Mais qu'est-ce que vous avez changé du passé ?
S'il y a une question à laquelle je ne réponds jamais à propos de mes livres, c'est ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je fais appel à des documentalistes qui me font des fiches chronologiques avec des faits historiques. Moi, ce que je vous donne dans Perfidia, c'est l'infrastructure fictive de la grande injustice de l'internement des Japonais. La rafle de Japonais, certains innocents, certains coupables, certains de la cinquième colonne, des saboteurs, immédiatement après le début de l'implication américaine dans la Deuxième Guerre mondiale, juxtaposée par rapport au meurtre d'une famille japonaise à la veille de Pearl Harbor. Cela constitue ma façon de réécrire l'histoire. Ce que je donne aux lecteurs, c'est l'infrastructure humaine secrète des grands événements publics. Évidemment, je change l'histoire. Si le lecteur croit que les histoires des hommes, les histoires d'amour, les histoires de flics, les histoires des femmes et ainsi de suite. Si le lecteur croit à ça, si ma fiction est crédible, eh bien dans ce cas-là, j'ai bien réécrit l'histoire avec un grand H.
Parlons de vos personnages, James Ellroy. Vous aimez dire que vos personnages sont des hommes et des femmes disloqués. Mais si vous les choisissez comme ça, est-ce que vous avez une intention pour eux ? Est-ce que vous souhaitez, sinon les disséquer, les réparer ?
Non.
Non, je veux les envoyer vers des aventures, parfois Ils se rencontrent, ils peuvent tomber amoureux. L'un des protagonistes de ce nouveau livre que je suis en train de rédiger, c'est Elmer Jackson, le policier qui est un petit personnage. En réalité, c'est un personnage qui était un véritable flic corrompu, et il tombe amoureux et il couche avec des femmes. Bon, c'est bien pour lui. Donc ça se passe au mois de janvier, février et mars 1942. Et je sais ce que va dire mon éditeur américain lorsqu'il lit la description de ce personnage. Il finit par épouser une réfugiée de guerre juive. C'est un mec de Caroline du Nord, et mon éditeur va dire, moi j'y crois pas, il s'appelle Sonny Mata. Et moi je vais répondre, Sonny, moi non plus j'y crois pas, parce que en fait, il est sympa, mais c'est un type qui dit que des conneries. Et ces personnages essayent de s'aimer, et c'est pourquoi la deuxième tétralogie, je pense que c'est une aventure romantique de Los Angeles.
Avec moi, les menaces ou les pots de vin, ça prendra pas. Vous serez dans un putain de merdier, vous et Patchett.
Je me souviens de vous la veille de Noël. Ça vous excite, les femmes en détresse, hein, Inspecteur White?
C'est peut-être ma putain de curiosité.
Vous dites souvent putain.
C'est bien votre métier.
J'ai du sang sur votre chemise. Ça consiste en ça, votre métier?
Ouais.
Ça vous excite?
Quand c'est mérité.
Il le méritait, cela?
Je suis pas sûr.
Mais vous les avez connus.
Ouais. Comme vous en avez baisé 6 aujourd'hui.
En fait, j'en ai baisé que 2. Vous êtes différent. En 5 ans, vous êtes le premier à ne pas m'avoir dit que je ressemblais à Véronique Alec en moins d'une minute.
Vous êtes mieux que Véronique Alec. Pierce Patchett.
Il garde une partie de nos gains et l'investit pour nous. Il nous interdit les narcotiques et n'abuse pas de nous. Est-ce que votre mentalité de policier peut admettre ces contradictions?
Il vous a charcuté en Véronique Alec.
Non. À part que je suis brune. Mais le reste, c'est moi. Ravie de vous avoir connu, inspecteur.
J'aimerais vous revoir.
Est-ce que c'est pour m'inviter ou pour me sauter?
On parle des femmes. Vous aimez dire que vous avez commencé votre vie amoureuse en étant un voyeur, en matant par la fenêtre les filles du voisinage, en vous introduisant chez elles nuitamment quand elles n'étaient pas là. Vous aimez aussi cette expression française « chercher la femme ». Et les derniers mots de votre père, à votre intention, avant de mourir, auraient été « James, attrape toutes les serveuses que tu pourras pour les mettre dans ton lit ». En écrivant, est-ce que vous continuez, en écrivant notamment ces histoires d'amour, est-ce qu'à votre façon, vous continuez à être un voyeur, ou est-ce que vous nous invitez, nous lecteurs, à le devenir?
Quand j'étais gamin, il y avait un comique qui disait « Je veux trouver le gars qui a inventé le sexe et je veux savoir ce qu'il fait avancer maintenant ». Le pouvoir de la sexualité, ça m'étonne et puis ça me fait avancer. Je ne suis pas voyeur parce que je maîtrise bien ce qui me touche et ce que je produis comme effet. Je vous dis ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ressentir. Je devrais faire des pubs pour Perrier, moi, en France. Il y a une pub Perrier où on voit un alligator qui est là, il ne bouge pas, et ils font venir un jaguar. Et le jaguar voit l'alligator, et puis après, coupé. Moi, il ne faut pas que le jaguar ou l'alligator soient blessés, mais c'est une pub géniale. Allez, buvons du Perrier.
And you're the jaguar or the alligator?
The jaguar, man.
Jaguars, ça a de la gueule. Ils vivent dans les arbres. Et puis, ils mordent les cerveaux. C'est ce que je fais, moi, dans les livres. Le jaguar, génial dans la littérature. Pas la voiture, jaguar. Mais c'est pas mal, les jaguars, pourquoi pas. Moi, j'aime bien dormir avec les chiens. Vous aimez bien dormir avec les chiens, vous?
I never tried. Yes, when I was a little girl, yeah.
Do you like sleeping with dogs?
Ça vous plaît de dormir avec un chien?
With a panther, yeah.
Yeah,
avec
woman
une panthère.
Woman panther, yeah.
Ah, une panthère femelle, oui, bien sûr.
Yeah, yeah, jaguar. No, I would like to sleep with a Bengal tiger.
Moi, je voudrais dormir avec un tigre du Bengale. White striped tiger. Orange, blanc, yeah. Noir, des rayures,
like
magnifique. Moi, je voudrais dormir
Airedale,
avec différentes races de chiens.
Akita.
Airedale, dog,
bull terrier.
Vous, James Ellroy, qui êtes habitué à aboyer sur les plateaux de télévision depuis les années 90, c'était déjà le cas la dernière fois que je vous ai vu, qu'est-ce qui vous donne envie d'aboyer aujourd'hui en Amérique?
I don't bark at I bark at women or I growl.
J'aboie ou je grogne quand je vois des femmes.
Or I bark to express.
Ou alors j'aboie pour exprimer mon mécontentement. Ou alors, quand je me réveille le matin et il me faut du café. Ou alors, si je suis en décalage horaire, il y a un grognement comme ceci.
It means fuck you.
Ça signifie va te faire foutre, toi et ta mère.
Go away.
Suce ma bite, casse-toi de là.
Like that.
Voilà.
That means all those things.
Voilà, c'est ça que ça veut dire, tout en même temps.
Yeah, the laundry comes back late from the hotel.
Si à l'hôtel on me donne un service trop tard, si on me ramène mon linge trop tard.
I will walk up because I was in Vincennes for the book fair.
J'étais à Vincennes au festival américain. Et j'adore le bull terrier.
You know, and Helen, who you met, she and I have had three bull terriers.
Hélène et moi,
white dog,
nous avons eu trois bull terriers.
And there was a beautiful female.
Il y avait une femelle magnifique chez un coiffeur à Vincennes.
I walked in. I started
je suis rentré et j'ai commencé à l'embrasser sur le museau.
Mon chien, was great. I was pissed off. My feet hurt.
J'avais mal aux pieds.
Signing books all day. I was in a shitty mood.
J'étais de mauvaise humeur. J'avais fait des dédicaces toute la journée et j'ai vu ce chien. Ah, formidable. Donc je l'ai embrassé sur le museau.
Rien ne vous fait aboyer à part ces moments de mauvaise humeur.
No, I never bark.
Non, j'aboie jamais.
In anything.
No, j'aboie jamais quand je suis scandalisé. Aboyer, grogner, c'est un état permanent chez moi, parce que je m'identifie aux animaux. Un jour, quelqu'un m'a demandé si j'étais triste de ne pas avoir d'enfant. Et j'ai dit, non. Quand j'étais gamin, je me disais que j'aurais plusieurs filles, disons trois filles.
Et
il y avait deux femmes avec qui je voulais avoir des filles, mais elles ne voulaient pas m'épouser, ces deux femmes. Il y en a une qui s'appelait Glenda, et j'ai dit, allez, on va se marier. Et on aura trois filles. Et elle m'a dit, casse-toi. Non, elle ne voulait pas. Il y en avait une autre qui s'appelait Joan. Et plus tard, j'ai dit, allez, Joan, on aura trois filles. Elle m'a dit, non.
And what I came to realize
et
was
puis,
that
je me suis rendu compte, au bout du compte,
having children,
je me suis rendu compte que le fait d'avoir des enfants, ça nécessite beaucoup de temps, d'attention, et cette acuité mentale, ça gênerait mon imagination. Avec des enfants, je ne pourrais pas être là, allongé, en train de faire semblant qu'il y a un tigre à côté de moi. Tigre que je caresserais, bien sûr.
One, two, three. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture en compagnie de James Ellroy. Mais comment sonne sa phrase et qu'écoute-t-il la nuit à 3h du matin lorsqu'il met son réveil pour écrire? Vous le saurez maintenant.
Ping Pong.
Musique.
La culture sans limite.
Et soudain, Thomas Beautiful Bo, le DJ de Ping Pong, choisit de mettre notre disque du jour au diapason de la partition nostalgique « D'où sa mère est définitivement noire » de James Ellroy, en changeant France Culture en l'une de ses radios américaines au nom composé d'une enfilade de consonnes prononcées d'une voix traînante et inspirée. Et cette métempsychose doit toute à la voix et au son des chansons de Lady Ray, diva bien vivante qui convoque pourtant dans notre esprit dégénéré l'atmosphère poisseuse et haute de l'Amérique black des 60s, quand elle s'écorche l'âme et le cœur dans un micro Neumann U67, dansant sur le trottoir dans les néons d'un liquor store, un magasin de spiritueux, portant perruque blonde et pitbull en laisse, pour tenir en respect et faire s'embraser sur pied les hommes, quelle que soit leur couleur, et de les réduire définitivement en cendres s'ils portent une cagoule pointue du KKK. It's been a long time, chanté par Lady Ray sur son nouvel album Queen Alone, publié sous le label Big Crown Records.
Ping pong. La culture sans limite.
Dog eat dog. Ça sera traduit en français par les hommes de proie. Et regardez quand même, voilà. Oui, ça c'est sûr qu'un texte comme ça, par exemple, je ne vois pas qui d'autre pourrait l'écrire. Kelroy.
Dites-moi.
Ah, misanthropic Mickey slips, slides and nosedives in Spirol. Dig it, Hepcats. Mayor Harris Coyne, the marvelous, benevolent, malevolent mixter, has been out of federal custody since September 57. He did 3 to 5 for income tax evasion. His ragtag band dispersed and the former mog Kingpin's life since then has been one long series of skid marks across the city of the fallen angels. The town he used to rule with bullets, bribes, and bullspit bonhomie. Dig, children, and smell the burning rubber of those kids off the record, on the QT, and very hush-hush. Alors, Michael Misanthrope, ça roule et ça coule, ça dérape et ça rate depuis sa conditionnelle. Ouvrez vos esgourdes, vous les petits au parfum. Meyer Harris Cohen, le merveilleux, le bienveillant, le malveillant Mickeyer, a quitté ses foyers fédéraux depuis septembre 57. Et depuis ce jour-là, la vie de l'ancien grand patron de la PEG s'est résumée à une longue série de dérapages incontrôlés à travers la cité des anges déchus, cette ville que jadis il a tenue à sa main, avec ses grâces affables et exagérées qu'il ponctuait de rafales de graisse-pâte et de baves de boules. Ouvrez les bien grandes, les petits, les sentez, sentez la gomme qui brûle à chaque dérapage, ni vu ni connu, vite fait bien fait et très indiscret.
Des grands livres, non seulement parce que vous avez des flashs, des révélations, James Ellroy, et que vous concevez des intrigues très complexes, mais aussi parce que vous avez une langue, parce que vous avez un style, parce que vous avez une phrase singulière. Et j'aimerais, à cet égard, puisque tout à l'heure vous étiez en train d'aboyer, qu'on parle non pas du son de votre phrase, mais du bruit qu'il y a dans votre phrase, qui pour moi fait partie de la singularité de votre style.
Vous voyez pas mal de gens qui parlent de la marque de fabrique du style Ellroy, le style mitraillette télégraphique, mais moi je l'ai utilisé que dans White Jazz et dans un autre livre. Le style est désormais plus détaillé chez moi. Le ciment qui relie les phrases, c'est quelque chose de plus clair maintenant, mais c'est un style direct, affirmé. Et pour moi, chacune des phrases, chacun des paragraphes doit être parfait à mes oreilles. Et j'ai une espèce d'oreille intérieure. C'est comme l'animal qui chasse, qui a les sens en éveil, notamment l'ouïe. Et je fais tourner les phrases sur des mots plus courts, bien souvent. Lorsque j'entends un discours politique, il y a des gens qui peuvent dire « Ah, c'est un discours génial ». Je me souviens qu'un jour, j'ai entendu le discours d'Obama lorsqu'il est devenu président. Et il a terminé son discours avec un mot très long, le mot « génération ». Ce n'était pas un bon discours, mais la fin était terrible. Ça se voulait spectaculaire, le dernier mot n'était pas court, et je me suis dit ben, « ce gars-là, ça va être un mauvais président ». Et c'est le cas du reste, c'est un mauvais président, donc voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que je vous dirais en matière de politique.
Vous proposez d'écrire des discours pour Obama ?
Non, moi je vais être candidat à la présidentielle en France. Et j'utiliserai mes pouvoirs pour voler tous les tableaux du Louvre et je les revendrai à des trafiquants de drogue arabes et des trafiquants d'armes et à Vladimir Poutine. Je vais vendre tous les tableaux du Louvre à ces gens-là. Je vais gagner plein d'argent. Je serai totalement corrompu. Du reste, je serai candidat contre Sarkozy lors de la prochaine campagne. Et je vais gagner parce que je suis plus grand que lui. Mais qui ne l'est pas? Même votre chat est plus grand que Sarkozy.
Sarko.
Ouais. Je vais m'acheter un chien, je l'appellerai Sarko, ça vous plaît?
Bull terrier.
Un bull terrier, bien sûr.
Justement, puisqu'on parle du bruit, des sons de vos phrases, vous êtes un grand fan de Beethoven, qui vous accompagne, notamment il y a une sonate en particulier, il y a aussi les derniers concertos pour piano. Donc je voulais savoir quel rôle il jouait justement dans la musique de cette écriture.
More than anything else. It's the adagio.
Plus que tout, c'est l'adagio de la sonate pour piano de Beethoven qui me marque le plus. C'est une très grande beauté. C'est le mouvement lent le plus remarquable de toutes les sonates de piano. C'est un piano solo et la meilleure performance est celle d'Emo Kalel, le pianiste russe, désormais disparu malheureusement. Et bien souvent, moi je n'écoute pas de la musique quand je travaille, hein, mais quand... Je travaille sur une histoire d'amour, et bien, par exemple, j'écoute ça sur ma chaîne. Dans ce nouveau livre auquel j'ai travaillé aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments du Mexique. Et il y a un morceau, c'est assez étrange, il est de Henryk Wieniawski, compositeur polonais qui a vécu d'environ 1850 à 1890, mais c'est une petite sonorité latine à mes oreilles. Ça s'appelle Légende. C'est l'opus 67. C'est un morceau de 7 minutes. C'est joué par l'Orchestre Symphonique de Londres. Et le violoniste, c'est le grand violoniste israélien Gershon. Et ça, je vous dis, une sonorité latine, mexicaine. C'est un rythme latin. Et ça, c'est le thème d'amour pour ce livre sur lequel je travaille. Il s'agit de Dudley Smith. Dudley Smith qui est corrompu, c'est un type qui est complètement taré, il fume de l'opium, il cherche un trésor d'or, il est de plus en plus fasciste, ça se passe au Mexique. Et le Mexique s'est particulièrement corrompu pendant la Deuxième Guerre mondiale. For I found you the love of my life in somebody else's arms. Your eyes are echoing perfidia, forgetful of a promise of love, you're sharing another's charm. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you. And so I'll take it back with a sigh. Perfidious one, goodbye.
Comme Perfidia, qui est le nom en fait d'un standard de jazz des années 40, ce prochain volume, ce prochain roman portera le nom d'une composition, d'une musique.
Il y a beaucoup de musique dans ce livre à venir, parce qu'il y a Otto Klemperer, le chef d'orchestre exilé allemand. Il y a tout un coup, tout un une arnaque pour que les musiciens juifs destinés au camp de la mort, pour qu'ils puissent sortir d'Europe. Vous verrez, vous lirez ça dans deux ans.
Et
dans l'interprétation de Wagner de Klemperer, il y a des choses que vous entendrez en lisant le livre. J'espère que ça répond à votre question. Mais ce ne sera pas le titre. Le titre, il est secret. Hein.
Klemperer.
Yeah, well, he's a real life man.
Oui, oui, il est Otto Klemperer. Il a existé, hein, grand chef d'orchestre. Il a vécu de 1885 à 1973.
Parce qu'il y a un autre Klemperer qui a vécu, un juif allemand, qui a vécu caché dans sa maison à Dresde pendant toute la guerre et qui, enfermé un peu à votre manière, à votre façon, James Ellroy, enfermé dans son basement, dans sa maison, jusqu'au bombardement qui ont ravagé Dresde, écrivait tout ce qui lui passait. Il a écrit notamment le fameux ouvrage qui s'appelle « La langue du Troisième Reich », un ouvrage de philologie où il analyse le langage et il présente ses écrits comme des soldats de papier. J'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, vos livres sont aussi des soldats de papier ?
Yeah, they are.
Ah bah ouais.
It's not that I'm trying to...
Non pas que j'essaye de changer le monde ou tuer qui que ce soit, mais c'est comme ça que je me défends contre le monde. C'est ainsi que j'exprime l'horreur et la beauté que je vois dans le monde autour de moi.
Et dans Perfidia, il s'agit donc de ces camps d'internement dans lesquels ont été envoyés donc les Américains d'origine japonaise, donc juste après Pearl Harbor. Donc il y a une question raciale qui est présente, mais elle concerne aussi les Juifs, d'autres populations dans votre roman. Est-ce que c'est votre façon à vous de raconter l'Amérique d'aujourd'hui ?
Well, not today. It has nothing to do with today.
Non, ça n'a rien à voir avec l'actualité d'aujourd'hui. Rien à voir avec la période actuelle.
Well, it's easy for me to live.
C'est assez facile pour moi de vivre en 1941-42 et de vivre nulle part ailleurs. Rien dans ces livres historiques que j'écris n'est censé représenter la période actuelle, n'est censé refléter quoi que ce soit d'aujourd'hui. Si les gens veulent faire une comparaison par rapport à la période actuelle, par exemple les conditions de race en 1942 par rapport à aujourd'hui, ils peuvent s'amuser à faire ça, mais ce n'est pas censé être le reflet de la période actuelle. Je crois que le pouvoir de mes livres vient notamment du fait que moi, je vis dans l'époque que je décris. Je vis dans la langue de l'époque que je décris, comme Victor Klemperer. Eh bien, ce sont mes soldats de papier.
Vous êtes allé donc d'abord dans le premier quatuor, puis dans les livres qui ont suivi, de 47 à 72, puis vous décidez donc de repartir en arrière dans ce nouveau quatuor. Pourquoi, James Ellroy ?
The history didn't interest me.
L'histoire, ça ne m'intéresse pas. Je n'avais rien à saisir pour moi d'un point de vue historique. Et après une petite pause, après Bloods a Rover, il m'est venu l'idée de la deuxième tétralogie de Los Angeles. Et ainsi, je peux unifier et densifier les deux œuvres. Donc Perfidia, ce livre que j'écris aujourd'hui, les deux derniers de la tétralogie, eh bien, on se retrouve avec la première tétralogie de Los Angeles. Puis vient la trilogie. Ça fait donc 11 romans de la période entre 1941 et 1972.
Vous aviez envie de faire quelque chose de cohérent sur le plan historique, c'est pour ça que vous êtes parti en arrière, parce que vous dites souvent que vous préférez qu'on vous appelle un romancier historique, comme l'a pu être Balzac, qu'un romancier de roman noir.
Yes, yes. Yeah, that's the, I want to densify the first two bodies.
Je veux densifier les deux premiers corpus en créant un troisième corpus.
You know, later in my lifetime, people will be able to go
plus tard, les gens pourront
read out of the sequence that the books were written in,
parcourir mes livres en dehors de la séquence, mais aussi les lire chronologiquement. Perfidia 2, 3, 4, la première tétralogie 1, 2, 3, 4 et la trilogie 1, 2, 3.
Ce nouveau quartet, avec Perfidia, donc ce premier volume, nous entraîne dans la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait que les guerres mondiales sont des temps où on a fait beaucoup d'innovations, notamment technologiques. Et il y a un écrivain français qui a pu soutenir que toutes les innovations technologiques servent d'abord à exterminer. Mais alors vous, les innovations que vous faites dans la littérature, elles servent à quoi ?
They are made to entertain, they are made to move, they
divertir,
are made to thrill, they are
émouvoir,
made to appall,
passionner,
they are made to eroticize,
horrifier,
they are made to obsess.
Érotiser, obséder.
Pourquoi elles sont faites pour vous, James Ellroy ?
I get to live the history.
Moi, je vis l'histoire avec un grand H. Je la crée, mon nom. Eh bien, on le voit sur l'histoire avec un grand H. Je vais au Festival América de Vincennes et les gens me respectent. Et le peuple français me porte son amour, j'espère pouvoir lui rendre. Et moi, encore une fois, l'histoire avec un grand H, je la vis, je la réécris.
Par quoi tu comptais commencer ? La prostitution ? Le jeu ? Repars au New Jersey, Caïd. Ici, c'est la cité des anges. Et t'as oublié tes ailes.
Vous êtes né en 48 à Los Angeles, dites-vous, dans l'épicentre du film noir, dans la Mecque du cinéma. Et vous faites de la littérature qui, d'une certaine manière, est larger, plus grande, plus forte que le cinéma. À propos de romans policiers, il y a un titre qui est célèbre en France et qui me plaît beaucoup, qui est Spinoza encule les gueules. Est-ce qu'avec vos bouquins, à votre façon, vous baisez, vous surpassez Hollywood ?
I'm from Los Angeles and I got lucky where I was.
Je viens de Los Angeles, j'ai eu de la chance car j'y suis né. Mon père et ma mère m'ont fait éclore dans un endroit cool. Non, non, c'est pas mon intention celle que vous décrivez. Moi, mon objectif c'est d'écrire des grands livres. Et incessamment me replonger dans le passé pour revivre l'histoire. Ça coule dans mes veines. Et c'est très puissant. Je peux fermer les yeux et voir Wilshire Boulevard et Western Avenue en 1945. Ce serait impossible de filmer cela parce que c'est une grande rue avec des centaines de voitures qui la parcourent. Mais moi, je peux le faire dans mon imagination. Je vois ça, les yeux fermés, et ensuite, je décris ça sur papier. C'est ça que je fais, c'est ça qui est génial.
Justement, en parlant de votre enfance, de ce moment où vous êtes un garçon qui vit avec ses livres, dont la seule distraction sont les livres, puis ensuite ce jeune garçon turbulent que vous êtes, qui sera un grand lecteur en prison, notamment de true crime, des histoires de crimes véritables et de faits divers, j'ai envie de savoir quels sont, si on devait en garder deux ou trois, les livres qui vous ont amené à l'écriture.
They would be the most influential book.
La plus grande influence
is Libra.
C'est Libra, Don DeLillo, qui raconte l'assassinat de Kennedy. C'est surtout le point de vue de Lee Harvey Oswald. J'ai lu ça en 1988. C'était la genèse de Underworld USA et de la trilogie. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire... Je ne pouvais pas écrire un livre complet sur l'assassinat de Kennedy. Celui de Don DeLillo, il est complet. Mais je me suis quand même rendu compte que je pouvais écrire un livre où les graines de l'assassinat, on les sent cinq ans avant l'assassinat.
American tabloid.
Et c'est devenu American tabloid.
So that's one of those three books.
Donc voilà, l'un des trois livres de la trilogie. L'autre livre qui m'a beaucoup influencé, c'est Compulsion de Meyer Levin. C'est son grand roman sur les meurtres de Chicago. C'était deux homosexuels, des étudiants brillants, qui avaient assassiné un jeune garçon rien que pour s'amuser. Ils n'ont pas eu la peine de mort, ils s'en sont sortis. Et ce livre a été publié en 1956. Meyer Levin était contemporain de ses protagonistes. Donc c'est un livre d'histoire, d'abord les années 20, puis les années 50, lorsque la psychanalyse était en vogue. Donc il y a une explication psychanalytique pour le crime qui a été commis à Chicago. Et puis ensuite, John Gregory Dunn, True Confessions, dont il a été fait un mauvais film avec Robert Duvall et De Niro. Alors là, l'auteur raconte le Dahlia noir, mais évidemment, il ne l'appelle pas le Dahlia noir. Et il convoque l'année 1945 à Los Angeles et il s'en sert comme tremplin pour décrire, ou plutôt créer, un personnage avec des catholiques américains, mais la période, à mon avis, n'a jamais existé. Bref, c'est un livre totalement incroyable. Mais moi, je savais que j'allais écrire le Dahlia noir avant de lire ce livre. Ce livre a été publié en 1977, et le Dahlia noir a été publié, quant à lui, 10 ans plus tard. Mais c'était intéressant. Moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas irlandais. Et pourtant, il m'a fait croire à tout ce qu'il a écrit. C'était un exploit de l'imagination. Donc voilà les trois livres, Libra, Compulsion et True Confessions. Voilà les livres qui m'ont plus influencé.
Vos livres, que ce soit La Lune Rouge, Le Dahlia Noir, American Tabloid, vous les concevez pour justement nous réveiller, nous dire qu'il faut regarder cette violence humaine indéfectible en face et arrêter les mythes ?
Considering violence ? It's true, but it's more me telling the story.
Oui, mais il s'agit plus de moi qui raconte l'histoire. C'est moi qui veux saisir des éléments de violence, de sexualité, de corruption, d'élus. Il s'agit de moi qui traite la moralité de mes personnages et qui situe tout cela dans un contexte fluctuant. Je ne suis pas en train de vous dire quoi que ce soit sur le point de vue que vous devez avoir sur la violence. Évidemment, mes livres peuvent répondre à cette fonction. Ça peut être une espèce d'étincelle qui provoque le débat sur la violence ou sur la façon dont les élus se comportent de façon illégale et corrompue. Mais mes livres, et les livres d'une façon générale, sont lus parce qu'ils sont complexes. C'est particulièrement vrai des miens. Et par contre, les gens m'imputent des motivations complexes. Alors qu'en réalité, mes motivations sont toutes simples. Moi, je veux vous raconter l'histoire. Point. Moi, je veux écrire ces livres et je veux réfléchir à leur signification dans mon esprit, dans mon âme, puis ensuite je vous les livre.
James Ellroy, vous nous avez donné rendez-vous là dans le lobby, le salon de votre hôtel. Derrière vous, il y a une étagère avec des tas de bonnes bouteilles d'alcool. L'un de vos lecteurs, l'auteur d'un roman noir, Elmore Leonard, a pu dire que, on parlait de votre style et de votre voix tout à l'heure, il a pu dire que si on lisait vos textes à voix haute, ça ferait exploser les verres de vin qui sont sur la table, ou la tasse de café en l'occurrence. Est-ce que vous avez essayé?
Non. I've dropped. I've been working hard and I've been working too late and I've gotten a little bit shaky and I've dropped the coffee cup and broken it.
Il m'est arrivé de casser une tasse de café parce que je travaille trop tard, mais non.
Alors quel est l'effet de vos lectures? What is the effect of your allowed readings?
I've learned to read certain passages.
J'ai appris à lire certains passages de mes livres à haute voix, mais je n'ai jamais provoqué d'explosion de bombes ou de fracas de fenêtres. Je suis bon, hein, mais je ne suis pas bon à ce point-là. Ouais, je fais juste exploser les cœurs, c'est tout.
Ping-pong! It's already finished.
Merci beaucoup. Thank you again, James Ellroy. Votre dernier roman, Perfidia, rappelons-le, est publié chez Rivage.
Thank you, James. Le ping-pong est une explosion radiophonique, Radiophonique Explosion, qui se prépare en équipe with a big crew à la rédaction Aïssette Wendoy, Jeanne Aléo, Sam Boutata et Mathilde Cadreau, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir Alex Dang et Élise Leu.
Et tomorrow is another day dans Ping Pong. Demain, c'est déjà la Fashion Week avec Loïc Prigent et le styliste Alexandre Matuissi.
Et dans quelques instants, dans Avoigny, suite de l'hommage à Claude Jean-Philippe, généreux passeur de cinéma.